RMC, Intégral Tour, Christophe Cessieux.
Nous sommes dans les Pyrénées aujourd'hui, 11e étape de ce Tour de France, 2e étape pyrénéenne au programme Aspin et le Tourmalet avant l'arrivée tout à l'heure à Cotteret que les coureurs aborderont dans 71 km en tous les cas pour les hommes de tête qui comptent une avance assez conséquente, plus de 7 minutes d'avance sur le peloton. Fred, on a vu il y a quelques instants à l'arrière de ce peloton maillot jaune, un coureur français en difficulté, c'est un véritable calvaire pour lui ce Tour de France, c'est Romain Bardet.
Oui, Romain Bardet qu'on avait vu à l'attaque en compagnie notamment de Thibaut Pinot. Les grands battus d'hier et l'arrivée à la Pierre Saint-Martin un peu plus tôt dans la journée. Romain Bardet avait tenté de s'extraire dans un groupe de 15, s'extraire du peloton. C'était un coup d'épée dans l'eau en ce jour de grande chaleur. Romain Bardet aux côtés de la voiture médicale avec des poches de glace sur le cou, probablement un nouveau coup de chaud pour lui qui déjà hier avait vomi dans la montée finale vers la Pierre Saint-Martin. Apparemment la tête ne va pas très très bien pour Romain Bardet, un peu démobilisé, mais surtout le physique en a pris un coup, lui qui avait remporté l'étape de Pralou sur le dernier Dauphiné, qui portait de gros espoirs sur ses épaules au départ d'Utrecht, 6e du dernier Tour de France, l'Auvergnat de 24 ans qui avait tout mis en œuvre vraiment avec des stages de préparation en Sierra Nevada, sur les hauteurs de Briançon, dans le col du Lautaret, au col du Lautaret, des semaines en altitude, une préparation hyper pointue et tout qui s'écroule une fois en course, la théorie n'est vraiment pas la pratique.
Fred, on sprint là dans les derniers mètres avant le passage à Aspin.
Oui, avec le grimpeur irlandais Dan Martin qui vise autre chose que la victoire d'étape, peut-être vise-t-il la victoire d'étape mais aussi le maillot à poids qui est la possession depuis hier de Christopher Froome, de gros points engrangés par Dan Martin devant Thomas Vauclair, Powels, Machka et Julien Simon, de gros points à venir également avec, on le rappelle, après la descente d'Aspin, la longue, très longue ascension du Tourmalet, 17 km d'ascension pour ce qui sera le toit du Tour de France cette année. On rappelle que le Galibier devait être escaladé à plus de 2600 mètres d'altitude, mais à cause d'un éboulement dans la descente du Lautaret, dans le prolongement du Galibier, eh bien le nouveau toit du Tour depuis deux semaines, trois semaines même maintenant, c'est bel et bien le Tourmalet escaladé aujourd'hui et où Dan Martin devrait consolider ses points de la montagne.
Très bien, la moto RMC qui se trouve derrière un homme qui a été lâché du groupe de tête, en l'occurrence le sprinter de la FDJ, Arnaud Démare, Georges Quirino.
Oui, on a été obligé de rebasculer derrière lui parce qu'il se rapprochait, il jouait un peu à l'élastique avec le groupe de tête, hein. Courageux Arnaud Démare, le sprinter qui se bat en montagne. Là on passe au sommet du col d'Aspin, un monde incroyable à gauche et à droite de la route. Ils ont les casquettes à poids, aux couleurs du maillot à poids évidemment. Il y a des camping-cars un petit peu partout qui sont positionnés, un décor somptueux devant nous. On domine les Pyrénées là, en tout cas on voit tous les sommets devant nous dans cette descente très rapide maintenant qui va nous mener jusqu'à Sainte-Marie de Campan. Descente qui n'est pas très technique sur le début mais très 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 rapide pour Arnaud Démare qui va essayer eh bien, peut-être de revenir, de profiter de cette descente pour revenir sur les hommes de tête et peut-être aider son coéquipier Steve Morabito pour l'approche du Tourmalet dans quelques instants.
Très bien Georges, bonne descente, à tout à l'heure la route, on verra ça tout à l'heure avec Dédé, mais évidemment avec la chaleur qu'il fait aujourd'hui dans les Pyrénées, il pourrait y avoir un peu de ressuage, c'est-à-dire le goudron qui fond, peut-être pas au sommet, car là il fait un peu plus frais, mais en arrivant au bas des cols. Très bien, on va faire un petit tour à Moscou si vous le voulez bien pour les championnats du monde d'escrime. Ok, bon, on y va tout de suite. Alors, Georges, il est avec nous, Rodolphe Massé. On m'avait dit qu'il y avait un jingle, mais le jingle n'est pas parti. Ça va, Rodolphe?
En plus, tu l'avais bien lancé pour une fois, dis donc.
Pour une fois, j'avais pas oublié, dis donc. Un truc incroyable. Rodolphe, après la belle médaille d'argent de Cécilia Werder hier, est-ce qu'on a encore des chances de médaille aujourd'hui?
Oui, il y en reste une chance, mais une simplement, parce qu'aujourd'hui on dispute l'épée homme individuelle et l'épée dame individuelle. Alors l'épée dame, il n'y a pas eu de miracle. Les quatre françaises en lice aujourd'hui ont toutes été éliminées au deuxième tour, y compris la revenante Maureen Nissima, qui à 33 ans espère pouvoir se qualifier pour les Jeux Olympiques de Rio. À vrai dire, c'était assez logique, hein. Il était peu probable de voir une médaille chez les filles aujourd'hui. En revanche, chez les garçons, ils étaient trois au départ, puisque le quatrième Alexandre Blazik n'avait pas réussi à s'extirper échappé des éliminatoires hier. Ils étaient trois au départ et les trois pouvaient légitimement nourrir des ambitions de podium, mais c'est déjà fini pour Daniel Gérant, éliminé au deuxième tour. C'est une contre-performance pour Daniel Gérant, il faut être honnête. En revanche, il reste deux Français en lice et pas des moindres. Ronan Gustin, 27 ans, qui a déjà obtenu de très bons résultats en Coupe du Monde cette saison, mais surtout la véritable chance de médaille et même de titre aujourd'hui, c'est Gauthier Grumier, le numéro 1 mondial de l'épée masculine, qui a franchi ses deux premiers tours assez facilement. Il y a quelques minutes, il vient de remporter son deuxième tour, 15 touches à 7 face à l'américain Bratton. Il va ensuite affronter en huitième de finale l'israélien Herp, un match a priori largement à la portée de Gauthier Grumier. Pendant ce temps-là, Ronan Gustin lui affrontera le champion olympique en titre, le vénézuélien Limardo. Et si je vous dis qu'il n'y a qu'une seule chance de médaille, c'est que si les deux Français passent les huitièmes de finale, eh bien ils s'affronteront en quart. Donc s'ils passent les huitièmes de finale, on aura une médaille assurée, mais une seule aujourd'hui à l'épée masculine. Après, il restera à savoir de quel métal elle sera, cette médaille. Mais on peut espérer, avec Gauthier Grumier, décrocher une première médaille d'or dans ces mondiaux 2015.
On l'espère et on vivra ça avec toi tout au long de la journée, Rodolphe, en direct de Moscou, donc pour les championnats du monde d'escrime. À tout à l'heure, monsieur Massé, notre fin mousquetaire de la Dream Team RMC. 66 km de l'arrivée, Fred, on va faire un point sur la course. C'est le top course, donc dans la descente du col d'Aspin, en tous les cas, pour les hommes de tête, le top course.
RMC, top course.
Avec 6 coureurs à l'avant dans la descente du col d'Aspin à 66 km de l'arrivée maintenant. Thomas Vauclair, l'un des vétérans du peloton français, 36 ans, vainqueur déjà de 4 étapes, est accompagné dans ce groupe de 6 hommes, de 2 Français, d'un seul Français, pardon, puisqu'Arnaud Démare a été décroché. Julien Simon de l'équipe Cofidis, également présent dans ce groupe qui compte 7 minutes 30 au dernier pointage d'avance sur un peloton toujours relativement conséquent et groupé. Rafał Majka, le Polonais de la formation Tinkoff Saxo. Serge Powells, un Belge de l'équipe sud-africaine MTN Kubeka, Steve Morabito, coureur suisse de la formation française FDJ, et le champion d'Allemagne Emmanuel Buschmann, le jeune néo-pro de l'équipe Bora, ainsi que l'Irlandais Dan Martin de l'équipe Cannondale Garmin. Dan Martin qui est passé en tête au col d'Aspin et qui va tenter de faire la même au Tourmalet pour endosser le maillot à pois qui est toujours la possession de Christopher Froome. Christopher Froome qui ne porte pas le maillot de meilleur grimpeur puisqu'il porte le maillot jaune. C'est son équipier de la Sky, Richie Porte, qui a le maillot à pois aujourd'hui.
Et il pourrait changer d'épaule ce soir le maillot à pois parce qu'il y a de gros points évidemment.
Dan Martin est très bien positionné pour l'endosser ce soir.
Très bien, merci Fred. 15h12, c'est l'heure de parier dans l'intégral tour.
Les paris RMC Tour de France.
Et Benjamin Ramager nous revient tout frais après quelques jours de vacances. C'est rare qu'ils prennent des vacances sur le Tour de France. Et oui, c'est comment ça va, Benji?
Ça va très bien, c'est obligatoire maintenant, donc je me plie à la règle.
Très bien, Benji.
Et puis, il est amoureux, Benji.
Ah mais oui, oui, il est amoureux. Il est toujours amoureux, Benji. Tu sais,
c'est toujours.
C'est un grand sentimental, hein, romantique, Benji.
Et je félicite mon ami Lucho d'avoir pris le maillot jaune pendant mon absence.
Ah oui, oui, oui. Ah, il est impressionnant. Il est un peu comme Froome. Je sais pas à quoi il marche, mais en tous les cas,
si,
il marche.
On sait à quoi il marche.
Ouais. On sait, mais on peut pas te dire. On va pas balancer. Voilà. Nous, on se pose des questions et on a les réponses, mais on les donne pas. En tous les cas, pour Lucho, hein.
Lucho, ouais.
Uniquement pour Lucho. Évidemment. Alors, Benji, les principaux favoris, donc, pour la victoire d'étape aujourd'hui. Je pense que certains ont dû remonter, en flèche. C'est le cas de Martin au Majka, je pense, hein.
Oui, exactement. Tu as raison. Martin, à partir du moment où il a recollé à l'échappée, eh bien, ça a fait totalement péter les cotes, Christophe, puisque 2,15 désormais Martin. 3,25 Majka, derrière on retrouve Thomas Vauclair à 6,25, donc Martin est devenu automatiquement le grand favori des bookmakers. Attention à Thomas Vauclair puisque Bourgui avait donné Vauclair cote de 30, donc ça peut changer des choses pour le maillot jaune de Luc Leblanc.
Ah oui, parce que là à côté à 30, s'il l'emporte tout à l'heure, ce sera pas mal. Tu nous rappelles donc les paris de toute la Dream Team et on va ajouter ceux de Fred et de Georges dans quelques instants.
Lucho, le maillot jaune, avait joué Michel Kwiatkowski, cote de 30 également. Vauclair donc pour Bourgui, Krejvi, il me semble, pour Cyril Guimard à 28. Et toi, Christophe, tu as abandonné, m'a-t-on dit, ce Tour de France?
Non, je me suis réservé pour aujourd'hui.
D'accord.
Ouais, je me suis réservé pour aujourd'hui. J'avais pas d'idée hier. Donc Dan Martin.
Je te le note.
Tu me le notes, Fred.
Alors moi, ce matin dans la voiture, en arrivant vers Cotteret, ça me semblait évident. Vu les pentes, le profil de l'étape et les pentes à 3 km de l'arrivée très prononcées, je voyais bien une victoire de l'Espagnol Dani Moreno de l'équipe Katusha. Mais en arrivant ici, j'ai ouvert ma start list, ma liste de départ, et j'ai vu que le coéquipier de Purito Rodriguez ne participait pas au Tour de France. Et là, j'ai pris un coup, un vrai coup sur le
copie. Non, tu l'as pas, misé sur Postecopi.
Non plus. Dan Martin semble difficilement battable aujourd'hui, pour être sérieux.
Oui, Cyril.
Eh bien, il semble difficilement battable, puisque après avoir bouché quand même un peu plus de 3 minutes dans la montée d'Aspin, il a sorti tout le monde de la route, dont Vauclair, pour aller chercher les 10 points. Mais je vais rectifier un petit quelque chose concernant le maillot à poids. En aucun cas, même en passant en tête dans tout l'école, Martin ne pourra pas prendre le maillot de la montagne, parce qu'il n'y a pas de points doublés. Ah. Et au maximum, il ne peut marquer que 37 points. Et Froome en possède 51.
Et oui, on sait que les organisateurs ont décidé de faire la part belle aux arrivées en altitude en donnant beaucoup plus de points, en doublant les points.
C'est ce qui m'a induit en erreur, effectivement. Christopher Froome a franchi la ligne d'arrivée hier en vainqueur à la Pierre Saint-Martin, un col hors catégorie où effectivement les points étaient doublés car arrivé au sommet. Aujourd'hui, il y a un col hors catégorie, un col de première catégorie déjà dans l'escarcelle de Dan Martin. Le col hors catégorie, il pourrait aller chercher les points là-haut, mais comme les points ne sont pas doublés, effectivement, Dan Martin devra patienter.
Ça va vite, vite dans la descente. On va retrouver Georges sur la moto RMC, car je crois qu'Arnaud Démare a réussi à rattraper le groupe de tête, Georges.
Exactement, il a recollé là, Arnaud Démare. Il a fait le début de la descente à bloc. Le sprinter français est là dans cette zone un peu moins rapide de replat dans la descente vers Sainte-Marie-de-Campan. Et bien, il est revenu sur le groupe de tête. Il y a donc désormais à nouveau deux FDJ, Steve Morabito et Arnaud Démare, dans le groupe de 8, désormais à l'avant de la course. Et mon favori, c'est Dan Martin, évidemment. Ou Dan Martin, comme dit Cyril Guimard. Je sais pas, c'est peut-être un autre coureur.
Il a raison, on est en France. C'est un nom en français, ça, Cyril Martin. Donc,
oui, d'ailleurs, hier, on a beaucoup parlé de l'âne Martin, de la pierre Saint-Martin. Hier, eh bien, effectivement, l'âne Martin eh bien, n'a pas pu accompagner les meilleurs. Mais en fait, aujourd'hui, il a décidé que l'âne Martin revenait à l'actualité.
Dan Martin, qui, on le rappelle, est le cousin de Nicolas Roche, coéquipier de Christopher.
Ils n'ont pas de Tony Martin. Hein.
Exactement, Dan Martin, donc neveu de Stéphane Roche, l'ancien vainqueur du Tour de France, vainqueur du Giro, champion du monde irlandais. Dan Martin installé à Gérone, en Espagne. Et qui, je me souviens d'une... Tiens, est-ce qu'on a le temps pour une petite anecdote? Un jour de départ de Tour de France, je crois que c'est le jour où Torouchov s'était imposé sur l'étape de Barcelone, je sais plus bien. En tout cas, on était parti de Gérone, où c'était peut-être le jour de la victoire de Brice Feillu sur les hauteurs d'Arcalis. Dan Martin, coureur déjà pour l'équipe Slipstream, managée par l'ancien coureur Jonathan Wouters, était venu rendre visite au Tour de France au village départ, une course à laquelle il n'avait jamais participé. Et je l'avais rencontré au village départ. Il était venu me voir parce qu'il avait bien compris que sur RMC on a la chance de pouvoir participer, de pouvoir suivre le tour sur une moto suiveur. Et lui, qui nous écoutait quand il était coureur amateur à la Pomme Marseille, était venu me voir en disant: Fred, tu sais, je t'écoute et il faut bien que tu saches quelque chose. Tu as la meilleure place de tous les participants au Tour de France. C'est pas sur le vélo, c'est pas dans les voitures.
Tu l'as perdu,
c'est
place.
Sur la moto.
Tu t'es fait bouffer par le petit Georges, quoi.
C'est donc Georges qui a la meilleure place du Tour en ce moment.
Eh ouais. Il t'a mis les roues, hein, quand même. Hein,
bien sûr.
Il est fort.
Je suis pas le premier et pas le dernier à qui il mettra les roues, Georges.
Très bien. Merci à Benji. En tous les cas, on te retrouve tout à l'heure autour de 19h50 pour faire le bilan de cette journée des paris RMC, et puis pour parier sur l'étape reine de demain et l'arrivée au plateau de Baye. Tiens, c'est l'heure du jeu Tour de France RMC. Aujourd'hui, je vous offre la possibilité de gagner le jeu de société L'échappée infernale, le livre Parlons vélo de Marc Madiot, paru aux éditions Talents Sport, et surtout deux places VIP pour assister dans les meilleures conditions à l'arrivée du Tour de France sur les Champs-Élysées. Pour tenter de gagner ce superbe pack cadeau, appelez le 32 16 touche 6 ou envoyez le mot clé RMC par SMS au 7 32 16. bonne chance. Il est 15h19, on va se quitter quelques instants, revenir ici sur la route baignée de soleil de ce Tour de France 2015. Nous sommes dans les Pyrénées. Pour l'instant, un groupe de 8 est en tête avec quasiment 8 minutes d'avance sur l'avant-garde du peloton. Va-t-il se passer des choses?
7 coureurs.
Non, démarre à rattraper le groupe, non?
7 coureurs à l'avant de la course.
Très bien. Donc
c'est Monsieur Point Course qui parle.
Ok, et eh ben très bien. Eh ben, à tout de suite. Alors, il est fort. Il est trop fort. Il s'est fait mettre les roues par Georges, mais il est quand même fort. À tout de suite.
RMC Top Course.
PMU.fr, Paris Sportif, Paris Hippique, Poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
RMC Intégral Tour. RMC Intégral Tour. Christophe Cessieux.
L'intégral tour sur la route de cette grande boucle 2015 dans les Pyrénées aujourd'hui, où le ciel est toujours aussi bleu, le soleil cogne avec plus de 30 degrés sur la route du tour. Les coureurs du peloton qui en ont fini avec le col d'Aspin et qui vont attaquer dans quelques minutes maintenant l'ascension du Tourmalet. Alors là, quand même, je voudrais juste dire que je n'ai pas toujours tort, monsieur Adam, hein, et on va vérifier ça avec l'homme qui voit
là,
tout.
Je vais devoir payer mon coup ce soir. Volontiers.
Georges, ils sont combien à l'avant là? Parce que là, on sait pas, on hésite. Moi je dis 8, Fred 17, ils sont combien finalement?
Je vais refaire les roues à Fred Adam. Thomas Voeckler est là, ça fait 1. Raphaël Malka est là, ça fait 2. Powell est là, ça fait 3. Morabito est là, ça fait 4. Bushman est là, ça fait 5. Démarre est là, ça fait 6. Julien Simon est là, ça fait 7. Et donc on rajoute Dan Martin qui les a rejoints dans la montée d'Aspin. Ça fait 8, Fred. 8.
Merci.
Pour s'être échappé alors qu'on vient de franchir le panneau indiquant le début de l'ascension vers le col du Tourmalet. J'ai bien compté, j'ai bien lu également sur ma droite, c'est bien ça.
Très bien. Le chef a toujours raison.
Fred est dans un jour sans.
Oui, jour sans. Je vais me faire épauler d'ailleurs. Tiens, est-ce qu'on a deux minutes pour accueillir un invité tant que les choses sérieuses n'ont pas vraiment encore commencé? Le peloton dans la descente du col d'Aspin à 7 minutes 30 des 8 hommes de course. Oui, je fais amende honorable et je m'accroupis platement, même si ça ne se voit pas. Les Sky sont toujours à l'avant du peloton en file indienne. On est à 57 km de l'arrivée. Bientôt le début du Tourmalet, 17 km d'ascension. On accueille dans le studio RMC l'un des acteurs importants du Tour de France et du peloton cycliste en général. Il y a les coureurs, il y a les directeurs sportifs, il y a les managers d'équipe, il y a les chauffeurs, il y a les hôtesses que l'on aime voir défiler le long
que
du camion.
Tu aimes?
Ah ouais.
Parce que toi non, tiens là-haut.
Il aime pas.
Le druide, il aime pas.
Moi je ne vois rien. Bon.
Et puis il y a les inévitables managers de coureurs, les agents de coureurs. Et on accueille en ce moment un ancien coureur professionnel finlandais, Jona Loka. Bonjour Jona.
Bonjour.
Reconverti agent de coureur aux côtés de Michel Gros, l'ancien directeur sportif de la formation Festina, du club de Vaux-en-Velin, Jona. Comment se passent les affaires sur ce tour? Est-ce que tu es là sur tout le Tour de France ou est-ce que tu viens autour des journées de repos? Comment tu t'organises?
Je fais quand même plus que la moitié du tour. Donc c'était au départ une semaine, je fais un petit week-end à la maison. Là je suis de retour depuis dimanche soir et là je suis jusqu'à demain. La semaine prochaine encore 3-4 jours. Donc
traditionnellement, on signe des contrats, des renouvellements ou des changements d'équipe sur les journées de repos, sur le Tour de France, jamais entre?
Ça se négocie toute la semaine et puis on concrétise les jours de repos.
Tu arrives avec tes contrats tout faits et prêt à signer les jours de repos, c'est ça, concrètement?
C'est pas toujours si facile que ça, mais bon, c'est l'objectif. Hein, ouais. Disons cette année quand même, surtout au niveau de cette équipe française, le mercato n'est pas vraiment ouvert. Hein. Ouais. Comme il y a la situation de l'équipe Europcar, il y a beaucoup d'équipes qui attendent comment ça va se passer. Et puis, les équipes, ils font signer des coureurs qui sont des successeurs, qui veulent garder. Mais des mouvements entre les équipes, en France, il y en a très peu pour le moment.
C'est vrai qu'il y a du bon monde dans cette équipe d'Europcar. Pour l'instant, Jean-René Bardonneau a demandé à ses coureurs de ne rien faire avant la fin du tour. Mais ils sont inquiets les coureurs forcément. Est-ce qu'ils vous demandent d'aller chercher, d'aller vous renseigner un peu pour savoir s'il y a des pistes, comment on réagit, sans donner de nom hein, évidemment, mais dans l'ensemble comment ça se passe?
Oui, bon, disons sans donner de nom, on sait que c'est Europe Car, il y a des coureurs qui commencent à être inquiets, mais bon aussi on peut dire que les coureurs sont très fidèles à leur manager d'équipe. Et je pense que le corps, c'est sûr, c'est des sommes de paroles. Et que jusqu'à la fin du tour, ils vont rien faire. Hein.
Ouais. Comme dans le foot, les managers dans le vélo ont une écurie avec un groupe de coureurs. Quel coureur tu as sous contrat, Yona?
Bon, nous, en France, on travaille avec des garçons comme Aupardet, Perrault, Guillermos, Riclon, Mollard, et après bon, les corps être pas mal de Scandinaves, Alexander Christophe, Buström, les frères Ludvigsson. Après on a quelques Espagnols comme Samuel Sanchez, Luis Mate.
Tu es arrivé au camion là dans le studio RMC et tu tirais une drôle de gueule parce que aujourd'hui c'est journée galère pour Romain Bardet, comme hier, ouais, il a l'air de pas aller bien. Ce ne sont pas que les contrats, que les signatures et les primes à la signature et les renégociations de salaire qui sont importantes. C'est vraiment les performances du coureur et c'est la carrière en elle-même.
Oui, bon, disons, il y a des agents de coureurs qui sont chacun à sa façon de travailler. Mais bon, moi et mon associé Michel Croix, on vient du milieu cycliste. On est ancien coureur, on a travaillé dans les équipes, on vit.
À la différence du football, où il y a très peu, il y en a quelques-uns, ouais, des anciens joueurs, mais ce sont surtout des hommes d'affaires, les agents. Non.
Notre objectif, c'est que Croix réussisse sa carrière sportive et en même temps qu'il est bien payé, et il travaille dans les conditions, qu'il est content. Ça, c'est les prochains objectifs qu'on a.
Yona, on parle de mouvement dans les top riders, les super coureurs. On sait que Richie Porte va partir de chez Sky, il va quitter Christopher Froome. Est-ce que c'est fait avec BMC? Quel tuyau tu as, toi, des gros
coureurs? Je ne peux pas le confirmer, mais je crois que c'est fait.
Ouais. Ça fait un bout de temps, hein, ouais, apparemment.
Cyril a une question à poser, Cyril Guimard.
Oui, bonjour, Carlos. Oui, la question que j'ai envie de poser, est-ce qu'aujourd'hui on peut être coureur cycliste et ne pas avoir d'agent? Est-ce que c'est possible encore?
Je pense que c'est possible, hein. Mais bon, je ne suis pas sûr si on est gagnant dans l'affaire, hein, au niveau financier.
Ça existe, hein?
Ça existe, ouais.
Je crois que Nasser Bouhanni n'a pas d'agent, il fait tout en famille.
Oui, dans le passé, il a travaillé avec un agent belge, et puis... L'année passée, ils se sont séparés et à ma connaissance, c'est son père qui a... Ouais. Qui négocie les salaires.
Et il a bien négocié son salaire sans agent quand même sur ce coup-là. Hein.
Oui, mais pourquoi tu dis que sur le plan financier, il va gagner plus d'argent parce qu'il est avec un agent que sans avoir d'agent? Un coureur qui n'aurait pas d'agent gagnerait moins d'argent qu'un coureur qui a un agent.
Ça dépend s'il arrive à bien négocier et s'il connaît bien pour l'avantage aussi de nous, les agents professionnels, on connaît les prix d'autres coureurs, on connaît les situations à peu près dans chaque équipe, combien de coureurs, les places ils sont disponibles, combien il reste de budget, donc on est à l'écoute tout le temps et on essaie de se renseigner sur tout.
Dernière question, quelle grosse pointure dans le peloton et sur le marché, qui va changer d'équipe?
Bon, des gros Landa.
Mikel Landa, ouais, le grimpeur basse, ouais, de l'équipe
Kwiatkowski,
Astana.
Kwiatkowski,
le champion du monde qui est annoncé, ouais, chez Sky, lui qui porte le maillot de Quickstep.
Notre ami Mark Cavendish.
Hey, chez Quickstep, ça va bouger. Ouais. Où va signer Kwiatkowski? Est-ce qu'il va chez Sky?
Je crois.
Oui. Cavendish, lui, semble un petit peu détendu sur son avenir. Il s'est longtemps posé des questions. Est-ce que je reste chez Lefebvre ou pas? Est-ce que la tendance est à un transfert?
Non. Moi, je pense que dans la logique des choses, il va rester.
En diminuant son salaire, peut-être. C'est ce qui se murmure.
Bon, le tour n'est pas fini, hein.
Ok, super. Merci beaucoup, Yona.
Allez, merci à vous.
Yona, bonnes affaires alors.
Oui,
hein,
merci.
Bonnes affaires sur le Tour de France. Et puis, voilà, on espère que ça va aller un peu mieux pour Romain Bardet. Est-ce qu'on a des nouvelles d'ailleurs, Fred, du corps de la formation G2R? On l'a vu donc tout à l'heure, on vous le disait, à l'arrière du peloton, un peu retardé, mais il n'a pas abandonné, hein.
Oui, Romain Bardet qui est toujours dans le peloton. On rappelle cette étape du Tour de France, la 11e partie de Pau en direction de Cotteray, Pau, départ du Palais Beaumont, non loin de l'avenue du Général. général de Gaulle, arrivé à Cotteret dans 54 km désormais, un groupe de 8 coureurs avec 7 minutes 10 d'avance.
Très bien, 15h30 sur RMC, on revient dans un instant pour la suite de cette 11e étape de l'ascension du Tourmalet. Est-ce que les anciens favoris vont faire quelque chose? A priori, on n'en prend pas la direction. A tout de suite sur la route du Tour.
Retrouvez tous les shows d'RMC en podcast sur rmc.fr.
Voilà, 15h30, Fred, on va faire un point complet de la situation à 53 km de l'arrivée. Chris Froome, tranquille, dans la route de ses équipiers, ça n'attaque pas, ça se regarde. C'est pas une étape sans doute où il va être menacé. Là,
hein. C'est une journée reine pour les fervents supporters de l'histoire du cyclisme et du Tour de France. Enchaînement des mythiques Col d'Aspin et Tourmalet. Cette étape que l'on pouvait pressentir comme belle et reine se transforme peut-être pour les prétendants au podium, au classement général, en journée de transition. Les coéquipiers du maillot jaune Christopher Froome qui emmène le peloton avec un écart stabilisé, un retard stabilisé sur la tête de course, toujours composé de 8 coureurs. On rappelle qu'il y a 3 Français à l'avant dans les premières pentes du Tourmalet, désormais à la sortie de Sainte-Marie-de-Campan. Thomas Vauclair de l'équipe Europcar, l'inévitable baroudeur français de la formation de Jean-René Bernodeau. Arnaud Démare à la FDJ, l'ancien champion de France. Julien Simon, le coureur de la formation Cofidis. Ils sont accompagnés, ces 3 Français, du Polonais Rafał Majka, l'ancien meilleur grimpeur du Tour, coéquipier de Contador chez Tinkoff Saxo. Serge Powels, le Belge de l'équipe MTN Kubeka. Steve Morabito, deuxième coureur FDJ à l'avant, le Suisse coéquipier de Thibaut Pinot. Emmanuel Buschmann, le champion d'Allemagne, néo-pro de l'équipe Bora. Et puis l'Irlandais Dan Martin, passé en tête au Col d'Aspin tout à l'heure. Dan Martin, ancien vainqueur de Liège-Bastogne-Liège, l'Irlandais, vainqueur d'une étape également sur le Tour de France il y a 2 ans. C'était déjà dans les Pyrénées, c'était à Bagnères de Bigorre. Dernier pointage à 53 km de l'arrivée. 7 minutes d'avance pour les 8 hommes de tête sur un peloton qui, pour l'instant, laisse filer. Pas de grosse offensive, a priori, en perspective.
Alors que Michel Kwiatkowski, dont on vient de vous parler, s'est arrêté pour attendre l'un de ses équipiers.
Roberto Urán.
Ouais, c'est Urán qui est en difficulté.
Mais alors, une information.
RMC, c'est au 32-16.
34 centimes la minute, plus coût éventuel selon opérateur.
Et au 7-32-16.
65 centimes par envoi, plus prix du SMS.
RMC, Intégral Tour, Christophe Sessieux.
L'Intégral Tour, 11e étape du Tour de France aujourd'hui. Les coureurs du peloton sont dans l'ascension du col du Tourmalet, qui sera donc le point culminant de ce Tour de France 2015. C'est ce que nous disait tout à l'heure Fred Adam. On va retrouver la moto RMC justement, qui est en contact des hommes de tête, qui possède un peu plus de 7 minutes, mais cette avance qui ne progresse plus, Georges. Hein. Georges ? Non, on n'a pas Georges Quirino. On le retrouvera tout à l'heure, Georges Quirino.
Donc il est en souffrance.
Il est en souffrance, peut-être. Fred, on va faire un point, donc 7 minutes, un peu plus de 7 minutes d'avance pour les hommes de tête.
Oui, à 53 km de l'arrivée dans l'ascension du Tourmalet. Il est long ce Tourmalet, on aura le temps de retrouver Georges dans quelques instants. C'est vrai qu'on est en montagne et que parfois les liaisons sont un peu compliquées. 8 coureurs à l'avant de la course avec une avance de 7 minutes. On rappelle que dans ce groupe de tête, il y a 3 Français. Thomas Vauclair chez Europcar, démarre Arnaud de son prénom à la FDJ, Julien Simon pour l'équipe Cofidis, également présent à la FDJ le Suisse Steve Morabito, Serge Powels, le Belge de la MTN Kubeka, le champion d'Allemagne très jeune, 22 ans, Emmanuel Buschmann, c'est un coureur de l'équipe invité Bora, et l'Irlandais Dan Martin, coureur de l'équipe Cannondale Garmin. Ces 7 là sont accompagnés de Rafał Majka, le Polonais de la Tinkoff Saxo, l'ancien meilleur grimpeur du Tour, c'était l'an passé. Ils étaient 8 il y a quelques instants, ils ne sont plus que 7. Le sprinter Arnaud Démare n'est pas sur son terrain de prédilection dans l'ascension du Tourmalet. Arnaud Démare vient de décrocher, ils ne sont plus que 7 à l'avant.
Et voilà, plus que 7 à l'avant, c'est ce que tu nous disais tout à l'heure, Fred. Ils ne sont plus que 7 à l'avant. Et on a retrouvé Georges sur la moto, la liaison passe dans l'ascension du Tourmalet. Georges.
Oui, on vient de dépasser Arnaud Démare, hein, qui là a complètement explosé en vol. Il a désormais lâché 150 mètres Arnaud Démare sur le groupe de tête, alors que Dan Martin s'est positionné à l'avant de ce groupe. Et il a haussé le rythme, hein, il a étiré ce groupe de tête et on a vu qu'il serrait un peu les dents. Thomas Vauclair est bien dans la roue et on va passer sous un petit tunnel. Du coup, on va vous rendre la main, sinon vous risquez de vous prendre regarde, mais c'est Dan Martin, ce gros bête.
Très bien, voilà.
La preuve par l'image ou presque. Ouais.
Allez, les tunnels pour les liaisons radio, c'est impossible. Lucho nous a rejoint dans le camion. Bonjour Lucho.
Bonjour.
Ah bah oui, d'accord. Il n'était pas prêt à intervenir. Il est en train
Oui, bah le temps qu'il soit prêt, je
vais vous donner vas-y, Cyril.
Vous donner une information. L'équipage G2R, à l'image de Bardet, est vraiment en souffrance. Ils viennent de perdre un coureur, le grand Van Soemeren, rappelez-vous, qui avait chuté dans l'étape de 8 et qui avait été bien
frappé. Qui souffrait le martyr depuis. Ouais. Hein.
Et donc, il vient tout simplement d'abandonner.
Abandon donc de Van Soemeren pour Romain Bardet. Il est toujours dans le peloton, mais on l'a vu tout à l'heure en souffrance. Bon, ils ont quand même malgré tout sauvé leur tour, Fred, avec la victoire de Villermoz l'autre jour dans Mur de Bretagne. Mais est-ce que ça suffit pour une équipe comme AG2R qui avait remporté le classement par équipe l'année dernière, qui avait deux hommes dans le top 6? Est-ce qu'on peut se contenter d'une seule victoire d'étape cette année?
Tout dépend si l'on se situe sur le plan purement sportif ou sur le plan commercial, financier. Bien sûr qu'une étape, c'est déjà très très bien. C'est la seule équipe française qui a remporté une étape, et ce sont des expositions médiatiques importantes et intéressantes pour le sponsor. Sportivement, clairement, Vincent Lavenue attendait autre chose au classement général notamment.
Il fait 33 degrés aujourd'hui sur la route du Tour, dans l'ascension du Tourmalet, mais pour l'instant l'étape ne donne rien. On verra dans quelques minutes s'il se passe quelque chose, mais pour l'instant l'étape est un peu escamotée, malheureusement, Cyril. On pouvait s'y attendre, on pouvait malheureusement le redouter, c'est le cas aujourd'hui. Hein.
Oui, vous pouvez le redouter, mais bon, on peut pas demander non plus aux coureurs d'être tous les jours à l'attaque, surtout quand ils se sont pris une claque sur la joue droite, une claque sur la joue gauche et un coup de pied aux fesses. Aujourd'hui, les prétendants à une place dans le top 10, voire le top 5 ou sur le podium, eh bien tous ces prétendants aujourd'hui sont complètement démoralisés, et je suis pas certain qu'il y en ait un qui puisse tout simplement porter une accélération.
Voilà, bon, c'est pour ça qu'on était un peu abattu hier lorsque Froome a écrasé le Tour, parce qu'on se doutait bien que derrière ça n'avait plus être tout à fait la même chose. Des invités dans notre studio RMC aujourd'hui, Jean Cormier, notre illustre confrère, qui a quasiment plus de tours que Cyril Guimard, non quand même pas.
37.
Salut Jeannot, ça
salut,
va
salut,
37
copains.
Tours, non, t'en as moins que Cyril Guimard quand même.
Ouais.
Mais t'es beaucoup plus jeune aussi.
Louis Armarie à ma droite.
Ah, Louis Armarie, évidemment, ancien pilier de l'équipe de France. Ça va, Louisou? On est quasiment sur tes terres, ou presque, là.
Tout à fait. Ici, c'est la vallée des Gaves. Moi, je suis originaire un peu de Lucien Sauveur, le pays Toy. C'est la vallée juste à côté, quoi. Et ici, on se retrouve sur la vallée de Cotteret, similaire un peu à la vallée des Gaves.
D'accord. Les rugbymen pratiquent-ils le vélo, notamment les premières lignes, Louisou?
Tout à fait, c'est vrai, parce qu'effectivement, quand on arrête une carrière sportive rugbystique, où on est un peu fracassé un peu de partout, si on peut dire.
Mais ça fait pas des beaux vieux, normalement, les rugbymen.
C'est vrai.
C'est ce qu'on dit, mais enfin, moi, il y en a quelques-uns qui. Hein, Louisou, par exemple, on est un bon exemple.
Hein. La truffe un peu éclatée, mais ça va.
Il reste quand même l'esprit sportif qui nous permet un peu de faire un peu de vélo, parce que c'est le seul sport qui nous permet où il n'y a pas de traumatisme. Alors ça fait qu'on peut faire un peu de sport de manière à se maintenir sans avoir trop de traumatisme pour la course à pied ou autre, quoi.
Mais on monte l'école, on monte Aspin, on monte le Tourmalet, ouais.
On monte le Tourmalet, tout à fait, le Tourmalet, que ce soit l'école à côté, que ce soit le Haut-Acam, le Jardinien, tout ça, on les fait, mais à notre rythme. Certes qu'on n'a pas le même. Même pas au même rythme que les pros, mais on se fait plaisir quand même.
Est-ce que Jean-Pierre Garuet monte l'école aussi? La garuche.
Pas les mêmes cols, je pense.
Les faux cols.
Les faux cols, voilà.
Ou les vrais cols, mais en haut des bouteilles.
En haut des bouteilles. Jeannot Cormier, évidemment. 37 Tours de France. On va accueillir tout à l'heure nos confrères du Parisien, qui t'ont succédé, évidemment, dans ce grand journal. Jeannot, donc, ton premier Tour de France, tu me racontais l'histoire l'autre jour. C'était il y a très longtemps, dans les années 60, avec un Tour de France qui est resté, évidemment, dans les mémoires, puisque c'est celui qui avait vu la mort de Tom Simpson.
Oui, 67, mon premier tour. Alors, comme j'étais le gamin, le bisou qui débarquait dans la grande boucle, le patron des sports de l'époque, Georges Dutin, ancien rugbyman lui aussi, qui jouait avec un béret au puc derrière, m'avait dit: Jean, aujourd'hui, vous ramassez les morts. Ce qui veut dire, vous mettez dans la dernière voiture, derrière la voiture balai, et vous écrivez ce que vous voyez, en ramassant les gars qui ne pouvaient pas suivre, quoi. Et je pouvais pas imaginer au départ, lorsque je suis allé voir ce copain qui était pour moi Tom Simpson, puisque je parle anglais, et on parlait de rugby tous les deux. On parlait de l'équipe de France et puis des Anglais, enfin on s'amusait, ça le divertissait. Et puis ma dernière question, si tant est que j'ai des questions à poser à Tom, c'était pas une interview, c'était du copinage. Et, au fait, t'es pas si mal placé que ça au classement, il devait être 7e, 8e. Tu crois que t'as encore une chance de gagner le tour? Il m'a dit tu vas voir ce soir. Et quelques heures plus tard, je le ramassais mort sur le sur cette horrible je dis horrible parce que la situation était horrible, mais admirable si on arrive en haut comme Merckx, c'est admirable, mais quand la réverbération se fait sur ces milliers de petites tuiles que sont en fait ces cailloux là qui vous réverbèrent le soleil et qui vous tapent sur la figure. Donc je peux vous raconter, c'est une première, puisque la première réelle elle est dans le livre, mais comme le livre tout le monde l'a pas lu.
Voilà, le livre on l'a pas encore lu, c'est Antoine Blondin, la légende du Tour, hein. Antoine Blondin. Qui est un peu ton père spirituel dans le métier.
Mon papa plume, oui, mon et avec Blondin et monsieur Bastide, évidemment j'avais deux sacrés papas. Le livre on le fait avec Jacques Augendre, qui est un monsieur, lui, grand monsieur du cyclisme, 55 Tours de France.
Ah oui, là, mais il a même battu Cyril Guimard sur ce coup-là.
Là, papa Cyril est largué aussi. Et Simbad de la Sue, qui n'est autre que le petit-fils d'Antoine. Donc il a tous les trésors de paix, comme d'autres ont des trésors de guerre. Non, j'en reviens au Ventoux. Ce que j'ai vu sur le Ventoux était tellement énorme que j'ai mis beaucoup de temps à l'écrire. Le soir même, je ne pouvais pas l'écrire parce que Lévitant m'a dit, le patron du Tour avec Jacques Godet, « Jean, aujourd'hui vous n'écrivez pas, vous venez à la morgue et vous traduirez pour Madame Simpson. » Donc j'ai eu quand même un drôle de job ce jour-là. Et j'étais frustré parce que quand on débarque sur le Tour, qu'on a une vingtaine d'années plus que quelques brouettes, on est avide d'écriture, on a envie. Et j'ai l'un des scoops les plus étonnants et je n'ai pas le droit de libérer, de me lâcher, de dire ce que je vois. Et par contre, ce que j'ai vu, c'est terrible. J'ai vu qu'effectivement, il n'avait pas que sucé que de la glace. Quand en cuissard est apparu quelques produits qui n'étaient pas forcément conseillés aux coureurs. Mais c'est l'addition de ces produits qui n'étaient pas conseillés aux coureurs, plus le soleil qui tapait, qui était d'une force, d'une violence terrible ce jour-là. Et le troisième élément déclenché par le soleil, c'est ce qu'il a bu. C'est-à-dire que les coureurs, à l'époque, quand ils avaient des chercheurs d'eau, qu'on appelait les grégaris, buvaient ce qu'il y avait. Si c'était de l'eau, tant mieux. Après, quand il n'y avait plus d'eau, ils tapaient dans les pique-niques, ça devenait du vin. Et quand il n'y avait plus de vin, ils prenaient ce qui restait, c'est-à-dire de l'alcool. Donc moi, j'ai vu, de mes yeux vus, puisque j'étais à 5 mètres avec la voiture au ralenti, avec Krieger, le photographe qui a fait des photos de la mort de Simpson, et aussi notre ami Céasso, puisqu'on avait un copain de l'équipe à bord de la voiture. Et là, il est remonté, il est tombé une première fois, il a tangué, il est retombé une deuxième fois, l'hélico est arrivé, du docteur Dumas, que notre ami Antoine Blondin avait surnommé le docteur Amphétamine Dumas, Amphétamine Dada, c'est encore plus fort. Et puis il s'est envolé, il était mort et le soir, donc j'ai dû traduire toute cette histoire.
Mais sans révéler qu'effectivement
rien, jamais un mot. C'est là-dedans la première fois, c'est dans cette histoire.
Fred, on va juste faire un petit point sur la course.
Difficile transition avec après ces propos de Jean Cormier. Effectivement, 12 kilomètres du passage au col du Tourmalet, toujours 7 hommes à l'avant de la course avec Vauclair, Desmar et Simon, accompagné de Majka, Powells, Morabito et champion d'Allemagne Emmanuel Buschmann, et déjà des victimes à l'arrière du peloton. Un peloton non plus conduit par les Sky de Christopher Froome, mais bien par les Astana de Vincenzo Nibali. Nibali, 10e seulement du classement général, à la dérive un petit peu hier, à la dérive comme Romain Bardet, comme Jean-Christophe Perrault et comme Thibaut Pinot. Thibaut Pinot qui vient de décrocher, il va faire Gruppetto, celui qui avait terminé 3e du Tour de France l'an passé. Thibaut Pinot et Romain Bardet en déconfiture aujourd'hui. On vous rappelle que Romain Bardet est en souffrance, lui qui est allé faire un petit tour à la visite au véhicule médical tout à l'heure et qui avait vomi hier dans la montée de la Pierre Saint-Martin. Thibaut Pinot en souffrance une nouvelle fois aujourd'hui dans les Pyrénées.
En revanche, Chéri, ça a l'air d'aller un peu mieux pour Nibali. Que veut-il faire avec ses coéquipiers de l'équipe Astana là? C'est un coup de bluff ou c'est peut-être les prémices d'une attaque du vainqueur sortant du Tour de France?
Oh, vous savez, c'est un coureur orgueilleux, Nibali, vainqueur sortant. Alors que nous avons Jean-Christophe Perrault qui lui aussi est en proches. Train de se faire lâcher du peloton.
Là c'est la Bérésina parce qu'il reste encore 12 km d'ascension, la descente du Tourmalet, puis la courte et pas vraiment pentue montée vers Cauterets. On est à plus de 50 km de l'arrivée.
C'est un coup à 15 minutes ça.
Ah oui, là ça va pas très fort. Jeannot, donc ce bouquin, Antoine Blondin, la légende du Tour. Cyril, tu as connu évidemment Antoine Blondin lorsque tu étais coureur, lorsque tu as été directeur sportif. C'était un personnage. À l'époque, les rapports entre les journalistes et les coureurs cyclistes étaient excellents. Ils étaient presque amis, hein, il faut bien le dire. Aujourd'hui, c'est pas toujours le cas. Hein.
Oui, mais on ne peut absolument pas comparer cette époque-là avec celle d'aujourd'hui. Les choses ont beaucoup changé. J'ai presque envie de dire, malheureusement, tous les noms qu'a cité Jean tout à l'heure, c'est des gens avec qui j'ai aussi partagé énormément de choses. À l'époque, j'étais coureur et ensuite directeur sportif. Il y avait une proximité entre les journalistes et nous, je parle coureurs, qui dépassait largement le cadre du rapport journaliste sportif, et on échangeait énormément de choses, même sur la course telle qu'elle se passait. Est-ce qu'il y avait un arrangement, pas d'arrangement, enfin le journaliste savait tout et
ne disait rien,
surtout il n'écrivait pas de bêtises.
Ouais.
Parce que en sachant tout, il savait ce qu'il pouvait dire ou pas dire, il y avait ce qui était off et ce qui ne l'était pas. Et même sans dire aux journalistes, bon je te dis ça, mais c'est off, c'était même pas nécessaire. C'était même pas nécessaire. C'est-à-dire qu'on était dans le même bateau. Ouais. Eux, ils avaient des papiers à faire, il fallait qu'ils fassent de très bons papiers, et moi je n'avais aucun souci puisque mon beau-père à l'époque était aussi journaliste et qu'il avait d'ailleurs effectué 9 Tours de France en tant que journaliste. Après il faisait que la Bretagne. Pour finir, tous les soirs il était dans la chambre des Bretons. Eh oui, c'est-à-dire des Fernand Picot, des Jean Guinche. Bon, il était dans la chambre.
Aujourd'hui,
c'est pas possible.
On peut pas aller dans la chambre dans le bus de la Sky, c'est pas possible.
Bah, écoutez, si vous y êtes invité, il semblerait qu'on veuille inviter les journalistes.
Oui, on a reçu une invitation.
Vous avez reçu une invitation, c'est très bien. Mais ouais. Au fait, vous allez parler en off.
Ah ben
aujourd'hui tout est lissé.
Tout est on. Il n'y a plus de.
Même des fois, quand j'entends certains coureurs, on sait très bien que ce qu'ils disent a été totalement télécommandé, téléguidé. C'est-à-dire qu'ils ont un discours à dire. On est dans la com, mais dans la com marketing. Donc vous n'avez plus personne qui va se livrer normalement aux journalistes. Et moi, si j'étais journaliste aujourd'hui, je me ferais chier en tant que journaliste parce que je n'aurais. Vous ne pouvez rien écrire, sinon ça fait des buzz. Enfin, ça doit être une horreur, enfin je sais pas. Imagine, et là je m'adresse à Jean. Jean, aujourd'hui, il suit tout le Tour de France. Je pense que rapidement, il remplirait ses 40 ou 50 lignes qu'il a à faire, et puis il irait voir ses potes, quoi. On boirait des canons. Non, mais c'est une tristesse aujourd'hui. La relation entre le sportif et le journaliste est d'une très grande tristesse.
Ouais, mais je me rappelle aussi les relations qu'on avait avec les joueurs de rugby. On allait à Château Ricard, on faisait les interviews sur le bar en buvant un coup. Alors que maintenant, tout est évidemment lissé, tout est tout cadré. Et que
vous ne voyez même pas un coureur. Il arrive, il a son casque, ses lunettes, il rentre dans le bus.
On retourne juste faire un petit point sur la course puisque Georges Quirino se trouve à côté d'un directeur sportif à l'avant.
Exactement, avec Andy Flickinger, directeur sportif d'Europe Car. Bonjour Andy, derrière bonjour. Thomas Vauclair qui est dans cette échappée. Andy, est-ce que c'est le genre de jour où Thomas Vauclair peut faire une de ces épopées dont on lui connaît?
Oui, c'est vrai que le parcours s'y prête, mais bon, derrière j'ai l'impression qu'il y a quand même une belle réaction du peloton. L'écart est encore est pas assez suffisant, donc on va voir. Je sais pas s'il a de très bonnes jambes, il me disait qu'il était moyen, donc on va voir.
On voit que ça commence à bouger devant là, Andy. Comment il était ce matin, Thomas?
Il était très motivé, il avait envie de bien faire. Après, c'est les jambes qui parlent, il y a eu une étape vraiment difficile depuis le début, donc voilà.
Merci beaucoup Andy Flickinger. Ouais, ça bouge devant. Morabito est lâché, Julien Simon également est lâché et il me semble que Dan Martin est en compagnie de Thomas Vauclair devant la Yana un petit peu partout. Ouais. Désormais, ça a bougé dans ce groupe de tête.
Oui, ça a bougé sous l'impulsion de Rafał Majka. Rafał qui a sorti la mitraillette. Lui, le meilleur grimpeur du dernier Tour de France, coéquipier d'Alberto Contador chez Tinkoff Saxo, qui a les coups des franges depuis que Contador navigue désormais à 4 minutes du maillot jaune Christopher Froome. Il a eu un bon de sortie, le Polonais, et il est en train d'éparpiller ses petits compagnons d'échappée dans la montée du Tourmalet. C'est lui, incontestablement, le meilleur grimpeur dans cette échappée. 48 km à parcourir et le peloton maillot jaune à 5 minutes de Rafał Majka. Derrière, on vous rappelle la détresse de Pinot, de Perrault, de Villermoz et désormais de Purito Rodriguez, à son tour lâché par le peloton maillot jaune.
Très bien, merci Fred. On va remercier également Jean. Donc, on n'oublie pas le titre du livre, Antoine Blondin, la légende du Tour, avec Gemignani et Poulidor.
Ouais, Gemignani, simplement, le grand on peut l'embrasser parce qu'il n'est pas au top en ce moment. Il vient d'avoir 90 balais et c'est la montée est rude en ce moment.
Évidemment, c'est
voilà.
Arrivé à un âge, c'est compliqué. Merci, mon Jeannot. Merci, à bientôt.
La bise à tous.
Louiseau Armari également. Merci, Louiseau. Et tu as tellement de chance d'habiter dans ces belles régions des Pyrénées. Merci à tous les deux, en tous les cas, d'être venus dans notre studio RMC. On va retourner, Fred,
à l'arrière du peloton. On vous parlait de Perrault, Pinot, Rodriguez et bien d'autres qui sont décrochés. À l'instant, deux Français sont en train de souffrir sur les pentes du Tourmalet et de lâcher prise dans ce groupe maillot jaune. Romain Bardet, qu'on avait déjà vu à la voiture médicale un petit peu plus tôt dans la journée, dans la montée d'Aspin, lui qui avait vomi hier dans la montée de la Pierre Saint-Martin. Romain Bardet décroche le sixième du dernier Tour de France, mais aussi et surtout Warren Barguil qui avait fait preuve d'héroïsme hier après sa chute. Il était dans le top 10, 9e du classement général ce matin. Warren Barguil à son tour décroché alors que le groupe maillot jaune compte toujours une grosse vingtaine d'unités.
Voilà, Cyril, tu nous disais hier soir, aïe aïe aïe, j'espère que Barguil ne va pas péter parce qu'autrement on n'aura plus rien à se mettre sous la dent côté français. Il reste Tony Galopin, est-ce qu'il est toujours dans le groupe maillot jaune, Tony Galopin, Fred?
Oui, incontestablement, un groupe maillot jaune qui perd beaucoup d'unités. Pourquoi ? Parce que les Astana de Vincenzo Nibali sont en train de visser de plus en plus fort et on en perd par grappe avec Andrew Talansky, le vainqueur du Dauphiné l'an passé, qui est en serre-file en compagnie de Mathias Franck, de Luis Mengis. Ils sont 20 coureurs emmenés par deux maillots bleu turquoise de la formation Astana. Vincenzo Nibali a sonné la charge. On devrait assister à une attaque dans le final du Tourmalet de la part du Dossard 1, tandis que l'équipe AG2R La Mondiale va très mal. Perrault et Bardet.
Que se passe-t-il chez AG2R La Mondiale?
Perrault et Bardet sont à l'arrière. Van Sumeren a abandonné et Ben Gastauer, coéquipier de Perrault et Bardet, le luxembourgeois, vient lui aussi de quitter la course.
Inquiétant quand même, Cyril, là, de cette épidémie. Alors c'est arrivé par le passé. C'est surprenant d'en voir quand même deux abandonner et deux être au plus mal aujourd'hui. Hein.
Oui, alors les abandons, ils peuvent s'expliquer, surtout concernant Van Sumeren. Mais vous savez, dans une équipe, quand vous partez avec des ambitions, des certitudes, surtout validées par l'année précédente, et d'un seul coup tout s'écroule, vos deux leaders explosent. Heureusement pour eux, ils ont remporté l'étape de Mur de Bretagne. Mais dans la tête, ça lâche. Et quand ça lâche dans la tête, il n'y a plus de jambes. Moi, je me souviens, vous savez, Pau, c'est une ville où il se passe toujours quelque chose. On l'a encore vu cette année. Vous savez, Bernard Hinault, c'était dans le Tour 80, ne prend pas le départ de l'étape à Pau, qui passait d'ailleurs par le Tourmalet. Nous étions au complet. On a fini à 3.
Ah, une fois que le leader lâche, c'est
d'autant que Bernard Hinault, quand il abandonne, il avait 6 minutes d'avance. Et derrière, on a perdu les Bernaudot, enfin bon, tout le reste de l'équipe. On a fini qu'à 3. Donc, vous savez, quand d'un seul coup, vous n'êtes plus dans le rêve que vous caressiez, et quand je dis le rêve, avec des certitudes. L'an dernier, ils font 2 et 6.
Ouais.
On se dit... Et d'un seul coup, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Alors, à partir de ce moment-là, j'ai envie de dire, il n'y a plus d'adrénaline, il n'y a plus d'endorphine, il n'y a plus de dopamine, il n'y a plus de testo, il n'y a plus rien. Et vous êtes complètement vidé.
Allez, une bonne nouvelle dans ce ciel gris, dans ce ciel tricolore qui vire au gris. Warren Barguil, qui était décroché du groupe maillot jaune, vient de réintégrer. Vincenzo Nibali est toujours en deuxième position. Il n'a plus qu'un équipier. Du coup, les Astana mènent un train un peu réduit. C'est ce qui a permis à Warren Barguil de rentrer sur l'arrière du peloton. Romain Bardet ne rentrera pas, lui qui a des restes d'une poche de glace sur la nuque, tout comme Jean-Christophe Perrault. Les deux leaders de l'équipe AG2R La Mondiale sont largués et tentent d'utiliser tous les moyens qui restent à leur disposition, des poches de glace à se mettre sur le cou. Ils souffrent de la chaleur, mais ils souffrent de partout, des jambes, du cœur, de la poitrine et aussi peut-être de la tête.
Voilà, 50 secondes derrière le groupe maillot jaune, Romain Bardet. Donc à l'avant de la course, là aussi des dégâts. Georges Quirino sur la moto.
Mais alors que on se rapproche de la station de la Mongie, dans cette ascension du col du Tourmalet, les drapeaux basques un petit peu partout là sur la route, et Rafał Majka seul en tête, le Polonais avec son maillot fluo de la formation Tinkoff Saxo. Un petit peu plus loin derrière lui, il y a Serge Pauwels, le Belge, et puis là nous sommes juste derrière Dan Martin et Thomas Vauclair. Dan Martin qui semble être en difficulté là quand même, hein. C'est Thomas Vauclair qui ne prend aucun relais également derrière lui. On s'asperge d'eau là parce que la chaleur est de plus en plus insupportable pour les coureurs dans cette ascension du Tourmalet.
Ok, 46 km de l'arrivée, donc peloton maillot jaune qui revient tout doucement sous l'impulsion des coureurs de la formation Astana et de Vincenzo Nibali. 4 minutes 37, Nibali qui va quand même beaucoup mieux que ça a été le cas hier. Hein,
oui, Vincenzo Nibali qui s'est refait. C'est l'orgueil du champion, et c'est un champion qui voit se profiler les derniers kilomètres du Tourmalet, mais aussi et surtout, on en parlait en tout début d'émission, la descente du Tourmalet qui sera un terrain de jeu idéal, très approprié aux qualités d'excellent descendeur, du requin de Messine comme on l'appelle dans le peloton. Ce sera tout de même difficile d'aller jouer la victoire d'étape aujourd'hui, mais ce sera peut-être l'occasion, cette longue descente vers Barèges depuis les 2115 mètres d'altitude du col du Tourmalet, une bonne occasion pour mettre à mal la domination des Sky, peut-être mettre un peu la zizanie derrière Tanel Kangert, le coéquipier de Nibali. On trouve le vainqueur du dernier Tour de France et en deuxième rideau les Sky de Christopher Froome, emmené notamment par Nicolas Roche, le coureur irlandais, devant Rafał Majka est en train de se lancer dans un nouveau solo, le genre d'échappée solitaire en montagne, de longs raids qui lui avait permis de remporter deux étapes du Tour l'an passé à Rizoul et au Plat d'Adet.
Et de ramener le maillot à poids de meilleur grimpeur sur les Champs-Élysées. Majka qui a peut-être le même objectif cette année maintenant que son leader Alberto Contador est relégué très loin au classement général. Chris Froome lui est toujours en jaune, vous le savez, et il a l'air quand même assez serein derrière ses équipiers de la formation Sky. On va voir la descente qui va être très intéressante dans quelques minutes. On va se quitter, laisser passer les infos de 16h et revenir très rapidement sur la route du Tour avec peut-être une attaque de Nibali dans la descente du Tourmalet que le groupe maillot jaune devrait atteindre dans quelques minutes. À tout de suite, juste après les infos de 16h.
RMC Intégral Tour.